Bonjour l'équipe de là-bas si j'y suis, voilà, je vous appelle d'Ardèche, je rentre du boulot. J'ai la rage, j'avoue, Marie qui travaille chez Carrefour, le gars là qui travaillait chez Total, c'est vraiment à gerber. Mais vraiment, mais à vomir. Moi je suis écœurée, mais quand est-ce qu'on leur coupe la tête à tous ces mecs-là?
Et si on mesurait le degré de violence de ces grosses fortunes qui exploitent, qui créent la misère, imposent la violence des cadences et qui sont protégées par les flics et le gouvernement? Si on mesurait ce degré de violence par rapport aux jeunes qui se révoltent dans les banlieues, ça ferait vraiment longtemps que les riches crèveraient en prison et que Sarkozy et sa clique de fachos seraient victimes de couvre-feu. Solidarité avec les jeunes qui se révoltent partout.
Hervé de Basse-Normandie, eh bien dans le cadre de ton émission d'hier sur le salaire des PDG, moi je me suis intéressé au salaire des PDG américains. Et d'après une source des Échos du 3 novembre, j'ai le salaire de Monsieur Thierry Semel, PDG de Yahoo. Il faut savoir qu'il a empoché 230,6 millions de dollars en 2004. Alors sur un taux de change de 1,20 $ pour 1 euro, on obtient 192 166 000 euros. En soustrayant, bien sûr, on accorde quand même à ce monsieur ses dimanches, faut pas exagérer, divisé par 311 jours dans l'année, on obtient 617 897 euros par jour, ce qui est pas mal du tout. 405 briques par jour, 4 500 000 francs. Ce qui nous envoie à 280 928 francs de l'heure. C'est pas mal. Hein. Mais tenez-vous bien, ça fait 4 682 francs à la minute. Sur les 4 682 francs qu'il gagne à la minute, c'est un calcul qui est basé sur une logique de 14 heures de travail par jour. Bah oui, parce que ces messieurs ont à dire qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais qu'ils ne comptent pas leurs heures. Alors je le rappelle bien, 14 heures de travail par jour, ce qui nous envoie à 4 682 francs à la minute. Bon, cette fois, je vous laisse. Je vais regarder les rois maudits à la télé. Au revoir.
Ah bah oui, je me demandais ce que ça voulait dire. J'ai dans PDG, j'avais jamais compris. J'ai quoi? Goinfre, ça y est, j'ai compris. PDG, c'est goinfre le G.
Bon, j'écoute l'émission d'aujourd'hui sur les salaires des PDG. Je pense qu'il serait quand même intéressant de pouvoir rendre public non seulement les salaires des PDG de ces grandes entreprises, mais aussi les prises d'action, les finances de tous les actionnaires, et de mettre en parallèle la masse salariale dans une de ces entreprises avec tout ce qui va à la finance. D'un côté l'argent du travail et de l'autre côté l'argent de l'argent. Et je crois que là, ça pourrait bien effectivement montrer combien il serait beaucoup plus juste de, par exemple, taxer la finance pour notamment la protection sociale et les retraites. Et à ce moment-là, bien, je crois qu'on pourrait démontrer que si on appliquait le même taux que pour les salariés, eh bien, il n'y aurait plus de trous de la sécu, il n'y aurait plus de problèmes pour payer nos retraites. Et peut-être qu'aussi on pourrait créer un peu plus d'emplois pour tous.
Oui. Bon. Alors, si on écoute bien le répondeur de là-bas, si j'y suis, si on écoute tous les messages que vous nous avez envoyés, excusez-moi, j'ai couru dans les couloirs, la conclusion c'est que vous n'y comprenez rien. La plupart des auditeurs n'y comprennent rien. Voilà pourquoi aujourd'hui on continue. Hier, c'était les gros salaires, les très gros salaires des PDG. Ça vous a un peu surpris, ça vous a un peu indigné, même certains. Mais ça montre que vous n'y comprenez rien. Par exemple, savez-vous, on parle beaucoup dans cette émission des Français qui habitent dans des zones sensibles, 6 millions, des gens, les Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 5 à 6 millions également, mais savez-vous qu'il y a en France 5 à 6 millions d'actionnaires? Vous le saviez ça? Ben oui, ceux qui sont actionnaires, mais les autres. Eh ben, c'est ces actionnaires qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui grâce à notre ami François Ruffin qui continue ses enquêtes dans le monde des cacahuètes, dans le monde de ceux qui accumulent des patates. C'est dans là-bas si j'y suis. Aujourd'hui, après ces messages que vous avez laissés, sur le répondeur, dans le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour tout le monde. Bravo pour l'émission d'hier. Hein. Très très bien, très très éclairante. Puis dans le climat ambiant, là je viens de me rappeler d'une phrase de Benjamin Franklin, un Américain, hein, pas c'est pas George Bush. Hein. Il a dit un jour, qui préfère la sécurité à la liberté aura vite fait de perdre les deux. Alors, ce serait bon de méditer là-dessus par les temps qui courent, surtout qu'il paraît, hein, suivant les sondages, qu'il y aurait plus de 70% des Français qui seraient pour la sécurité. Voilà, voilà, alors je la répète, qui préfère la sécurité à la liberté aura vite fait de perdre les deux. C'était Benjamin Franklin qui, il y a quelque temps de ça, avait dit ça. Voilà. Bonne journée, c'est Henri de Bordeaux.
C'est marrant, les sondages. Vous avez déjà été sondé, vous ? Moi, jamais. Je connais même personne qui l'ait été autour de moi. Aucun proche, ni ami, ni collègue de travail. Alors certains sondages me font marrer. Comme le dernier en date, celui de CSA Le Monde, hier, qui classe les personnalités du PS qui seraient les mieux placées pour la présidentielle de 2007. Ça donne Ségolène Royal, Jacques Lang, Bernard Kouchner. Le tiercé perdant du 29 mai dernier, quoi. Ceux auxquels 55% des Français ont dit non et que 70% des sympathisants de gauche ont renvoyé dans les cordes. Allez le monde, l'important c'est d'y croire. Et rendez-vous en 2007, messieurs les sondeurs.
Donc je réagis à l'émission d'aujourd'hui sur les PDG et les salaires pharaoniques. Pour moi, donc, la finance constitue en effet la vraie racaille, soutenue par les politiques, car ils procèdent à un véritable racket gigantesque, tellement gros qu'il en paralyse la plupart des gens que je trouve assez résignés. Bizarrement, autour de moi, les gens s'indignent davantage de la révolte des jeunes, des pauvres. J'entends beaucoup de mépris et ce mot racaille, je l'avais déjà entendu dans beaucoup de bouches avant que Sarko le reprenne de façon démagogique, satisfaisant ainsi beaucoup de gens. Et oui, autour de moi, les paroles que j'entends ne sont pas très solidaires. On trouve le racket légalisé des gros actionnaires et PDG plus ou moins grave, mais anormal la révolte des pauvres gens. Peut-être ne suis-je pas au bon endroit, du moins je l'espère, sinon il y a de quoi se faire du souci.
Revenu maximum d'existence. Revenu maximum d'existence. Revenu maximum d'existence. RME. Revenu maximum d'existence. Revenu maximum d'existence.
Salut à tous, un petit message pour vous donner un rendez-vous contre l'état d'urgence et les lois d'exception, contre la répression et les procès expéditifs. Une manifestation mercredi 16 novembre, donc demain, à 14h. Le rendez-vous est devant la fac de Saint-Denis, c'est sur la ligne 13, il faut descendre à Saint-Denis Université. Le cortège se dirigera vers le tribunal de Bobigny. Salut, j'espère qu'il y aura du monde dans la rue.
Ouais, salut Daniel, c'est les salariés du Baron Seyer qui sont toujours sur les barricades à Limoges. Je t'appelais pour te dire qu'il est 4h du matin, les équipes viennent de tourner là, les mecs ils viennent d'embaucher. Et on est près du feu, le moral est bon, tout va bien. On fait une assemblée générale à 10h ce matin, peut-être que le Baron va nous entendre. Allez, ciao, à bientôt.
Je suis actionnaire d'Air Liquide, je suis actionnaire d'AXA, malheureusement d'Alstom, de BNP Paribas, je suis actionnaire de Danone, je suis actionnaire d'Essilor, Lafarge, une très belle valeur qui n'est pas du CAC 40, très très belle valeur, Imerys, l'ancien Imetal, bon, Lafarge, Pernod Ricard, L'Oréal, Société Générale, Total, Vivendi, mais Vivendi parce que j'avais le Général des Eaux, Suez, Dexia, et sinon, très très belle valeur, très très belle valeur.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis, avec François Ruffin, les actionnaires.
Flight number 2, arriving from...
Bon, moi, vous savez, je suis juste un vulgaire pigiste à France Inter. J'ai pas trop... Mais qu'est-ce que vous consigneriez comme placement à Monsieur Daniel pour préparer sa retraite ?
Mais Bernard.
Non, ah, monsieur Daniel Mermet, c'est mon patron. Qu'est-ce que vous conseilleriez?
Alors écoutez, il existe de très belles valeurs sur le marché qui sont encore chères. Il faut viser un cours d'achat à la baisse. Alors je mettrai en tête deux valeurs, Essilor. Très très belle valeur, très grand président, monsieur Xavier Fontenay, le prototype du patron parfait.
Comme le mien, comme monsieur Daniel alors.
Peut-être. Je citerai ensuite une très belle société familiale qui connaît un très très grand succès. Donc la société c'est Pernod Ricard. Très très belle valeur. Voilà deux belles valeurs.
Avec ça, il est pareil pour la retraite à peu près?
Oui, je pense que Carrefour, AXA ont des prix qui restent abordables.
Très bien, bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour monsieur Daniel.
On savait qu'EDF était l'entreprise préférée des Français selon les sondages. Apparemment, les chiffres le confirment puisque selon la Tribune, 4 millions d'investisseurs individuels se seraient déjà mobilisés pour l'introduction en bourse du groupe d'électricité. C'est ce qu'affirme la Tribune. Je vous rappelle la fourchette de prix, 28,50 € à 33,10 €. Le prix définitif sera connu vendredi à la fin de la période de souscription.
Au titre Carrefour gagne 0,21%.
Alors voilà. J'hésitais, c'est vrai. EDF me tentait, comme 4 millions, vous avez entendu, 4 millions de mes compatriotes. Et puis voilà qu'on me conseille plutôt Essilor, avec ce patron formidable. Bon, Pernod Ricard. Bon, alors ça a l'air d'être bien, hein, Essilor et Pernod Ricard. Ou alors, à la rigueur, Carrefour et AXA. Voilà. Je vous avoue quelque chose, hein, j'y comprends rien. Je n'y comprends rigoureusement rien, strictement rien. Voilà pourquoi on fait cette émission aujourd'hui. Voilà pourquoi François Ruffin, ce jeune pigiste, a bien voulu aller au front. Il n'y a pas que Bagdad. Il y a aussi la France. Il y a aussi les premières lignes françaises. Et l'actionnariat, comment ça fonctionne, qui sont ces actionnaires? Alors évidemment, je suis sûr qu'il y a une partie d'entre vous qui voit l'actionnaire comme le rentier, parasite, le vampire qui suce le sang et la sueur de l'honnête travailleur. Eh ben non, on va voir aujourd'hui que le petit actionnaire, celui en tout cas qu'on a rencontré, mais comme la plupart, est un brave homme, est un honnête homme, comme ces 5 à 6 millions d'actionnaires français qui, avec le temps, se sont convertis à cette façon de faire du pognon, voilà, gentiment, mais quand même, peu à peu, en l'espace de 20 ans, 25 ans, il est beaucoup plus rentable d'être rentier que d'être salarié. Voilà, aujourd'hui, insensiblement, on s'est converti peu à peu à ce mode de vie et à ces valeurs qui se sont peu à peu introduites dans nos esprits, dans notre société et dans nos mœurs. Alors on va se balader pour comprendre ça avec un journaliste. On disait hier que ces gros salaires des PDG qui n'ont pas manqué évidemment suite à l'émission d'hier de vous indigner. Pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas plus? Pourquoi est-ce qu'on s'indignait pas plus? L'une des raisons évoquées par Jean-Luc Porquet dans son livre sur les gros salaires, que les gros salaires baissent la tête, je rappelle l'éditeur Michalon, eh bien la raison pour laquelle on s'occupe pas trop de cette histoire-là, c'est que la plupart des groupes de presse appartiennent, soit à Bouygues, soit à Dassault, soit à Lagardère. C'est une des raisons. Et c'est vrai qu'il est très difficile de trouver des journalistes suffisamment libres, suffisamment dissidents, pour parler de tout ça avec compétence et de l'intérieur. Et donc, on en a trouvé un. Et c'est avec lui qu'on va se balader aujourd'hui à la rencontre des actionnaires, au moins d'un actionnaire. C'est jusqu'à 18h sur France Inter. C'est la basse suggestion.
Bye. Merci.
En route vers le mystère de la finance du Poitou.
Il faut se rendre dans le Poitou pour comprendre un petit peu mieux les mystères de la finance du Palais Brongniart.
Là, on se trouve dans le Poitou avec Olivier. Olivier qui vient de me récupérer à la sortie de la gare TGV de Poitiers. Vous, Olivier, vous êtes un ancien rédacteur, un rédacteur démissionnaire d'un journal financier, un journal qu'on appellera La Voix de la Bourse. Ça fait longtemps que vous avez démissionné de ce journal ?
Non, fin septembre, à la faveur d'une clause de cession que l'on appelait, lors de ma formation de journaliste, la clause de conscience. Il faut que le magazine change de propriétaire. Bon, comme le magazine en question a changé de propriétaire 4 fois en 5 ans, il n'y avait que l'embarras du choix.
Et maintenant, il appartient à qui ?
À un fonds d'investissement.
Ça fait longtemps que tu travaillais dans ce journal, dans La Voix de la Bourse ?
Oui, à peu près 5 ans. 5-6 ans. Je gagnais très correctement ma vie. Ça m'a permis d'être propriétaire, ça m'a permis d'avoir de pouvoir avoir des enfants sans trop de soucis. Je n'ai pas de leçons à donner puisque moi-même, j'ai profité de cette situation. J'en croquais, c'est-à-dire que j'avais un salaire confortable qui est à peu près 2 fois le salaire médian français, c'est-à-dire autour de 15 000 francs. Qu'en 5 ans de CDI, mon salaire a quand même augmenté de 25%. Et que je passais sans cesse des compromis entre ma conscience et les exigences imposées par la direction du périodique pour lequel je travaillais.
Et vous avez vu, c'est flouté, hein, le nom du périodique, là, cité par François Ruffin, c'est pas le vrai. Voilà, il faut faire attention à sa peau. c'est très dangereux ce qu'on fait là. Mais oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que des journalistes dissidents, ben, il n'y en a pas beaucoup dans ce pays. Et aussi des journalistes économiques. Pourquoi ? Parce que la page politique d'un journal, eh ben, ça se discute. On discute, oh là là, je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis de gauche, je suis de droite, etc. La page société, les pages société, ben oui, là aussi, ça se débat, ben non, mais la page économique, ça se discute pas. Le supplément économique, ça se discute pas. C'est comme ça, c'est évident. Il faut être pragmatique, il faut être réaliste. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. Alors, s'il y a bien un endroit où il n'y a pas d'idéologie, c'est évidemment dans les pages idéologiques. Et voilà qu'on est tombé sur un journaliste qui voit les choses un peu différemment.
Il y avait une proximité idéologique et un intérêt bien compris à ne pas remettre en cause le discours des entreprises sur lesquelles nous écrivions. Le biais idéologique, c'est le libéralisme dans les têtes. On ne s'interroge pas, et encore moins à La Voix de la Bourse qu'ailleurs, sur le bien fondé des privatisations. On ne s'interroge pas sur le sens que peut avoir une société qui licencie à tour de bras afin d'augmenter les profits pour une poignée de privilégiés. Et tout cela, ça transparaît très clairement dans tous les articles, qu'ils fassent plusieurs pages ou quelques lignes.
Pour toi, on t'a imposé d'écrire comme ça ? Comment c'est ?
Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que j'étais en partie contaminé. Au départ, j'étais en partie contaminé, il se trouve que, avec la découverte du monde de l'entreprise, puisque je devenais salarié quasiment pour la première fois, et puis avec le krach boursier, qui montrait quand même que ça ne tournait pas rond, enfin, les questions que je me posais avant et que j'avais mis un peu sous le boisseau pour réussir professionnellement sont remontées à la surface.
C'est-à-dire que à ton entrée dans l'entreprise, à La Voix de la Bourse, tu as été mis dans un certain milieu où on pense de cette manière-là, où ma foi, toi personnellement, tu montais de classe, tu gagnais correctement ta vie, tu pouvais habiter là où tu désirais habiter, avoir des enfants comme tu désirais avoir des enfants. Donc finalement, à partir du moment où tout allait bien pour toi, tu considérais que grosso modo tout allait bien, que ça allait plutôt globalement, c'était un bilan globalement positif du libéralisme, et on n'a pas eu à te forcer pendant un certain temps à écrire en ce sens-là.
J'ai bien voulu que l'on me berne. J'ai cru à un moment à une partie du discours patronal, une partie du discours d'un PS, la bourse ne cessait de monter, le gouvernement Jospin créait des millions d'emplois, et donc j'ai cru qu'on pouvait réconcilier salariés et actionnaires.
Tu possèdes des actions toi-même ?
Non, j'ai toujours refusé de posséder des actions. La possession d'actions en France est hyper centralisée, hyper concentrée. Il y a peut-être 5 millions de détenteurs d'actions, mais en fait, il n'y a qu'un noyau de moins de 500 000 personnes en France qui possèdent beaucoup d'actions, et en particulier les PDG d'entreprise. Là, les PDG d'entreprise peuvent détenir plusieurs centaines de milliers d'actions de l'entreprise qu'ils dirigent momentanément. J'ai oublié la question que tu m'avais posée.
Ça a été quoi le déclic pour, d'abord, tu penses comme le marché, tu es d'accord avec le marché, et c'était quoi le déclic pour te faire sortir de cette pensée-là?
Bon, c'est un long cheminement, c'est-à-dire que quand j'étais étudiant, être de gauche, pour moi, c'était défendre les sans-papiers. C'était être contre Pasqua, maintenant contre Sarkozy. Ensuite, dans l'entreprise, une fois que j'ai travaillé quelques années dans ce magazine financier, je me suis rendu compte que, d'une part, que nous n'allions jamais en reportage. Nous n'allions jamais, j'ai écrit sur une quarantaine, une cinquantaine, une centaine d'entreprises. Je ne suis jamais quasiment allé dans une usine. J'ai été sur deux sites. Je n'ai jamais rencontré de délégués syndicaux. Je n'ai jamais rencontré d'universitaires à la demande de ma direction qui réfléchissent un petit peu hors marché. Hein. Je n'ai quasiment jamais rencontré de fonctionnaires au ministère de l'économie et des finances ou même de l'industrie qui peuvent avoir une vision différente. C'était normal pour ce magazine de ne pas aller sur le terrain. C'était normal pour ce magazine de se cantonner à interroger toujours la même sphère de patrons.
Qu'est-ce que t'interrogeais alors, si t'interrogeais pas de délégués syndicaux, pas de...
C'est-à-dire que ça ne venait à l'idée de personne, mais c'était des conseillers. Et lorsque j'interrogeais parfois des délégués syndicaux, parce que justement, mon point de vue, c'est que pour avoir pour essayer d'approcher la réalité d'une entreprise ou un fait social ou ce que l'on veut, évidemment c'est la règle de base qu'on apprend en école de journalisme. Il faut croiser les regards, il faut un regard de PDG, pourquoi pas. On peut essayer de trouver dans l'organigramme d'une entreprise un directeur, un cadre, un ingénieur qui pense différemment, qui vont relativiser déjà le point de vue financier claironné par le PDG.
Et donc quand tu décides d'aller interroger des délégués syndicaux, des ingénieurs syndiqués, qu'est-ce qu'on te disait à ta rédaction?
Nous ne devions pas citer dans le journal des délégués syndicaux.
Chez Bloomberg Télévision, nos journalistes dans le monde entier surveillent constamment les dernières actualités financières afin de vous tenir informés en continu. Notre réseau mondial vous assure un suivi complet des marchés à l'échelle régionale, nationale et internationale. Bloomberg Télévision, où que vous soyez, quand vous voulez, l'information qui vous intéresse.
Tu n'es pas d'accord avec la façon dont parfois je traite les gens. Tu sais, ça n'est pas si facile de s'assumer, mais il faut bien gagner de l'argent. Alors, tu n'as que 18 ans, mais bientôt tu comprendras mes difficultés. La chance ne m'a pas toujours souri, et c'est vrai que je ne peux plus vraiment reculer. Mais l'argent, 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 de l'argent pour les gens, de l'argent, de la thune, du flouze, du blé, sans sortir, sans argent, c'est compliqué. L'argent, l'argent,
Donc là, on vient de rentrer à, dans le village de Husson du Poitou, avec les gens qui sortent de la boulangerie, les bras chargés de baguettes.
Voilà, les camions qui bloquent l'artère principale. Jolie place. Et le parking n'est pas encore... On ne doit pas encore payer à Vinci le parking. Source inépuisable de profit. Et de solo option pour son patron.
Donc là, on se trouve avec Olivier, ancien rédacteur de La Voix de la Bourse, sur la place de Husson du Poitou, où on va rencontrer Monsieur Louis Bulidon, qui est un peu le champion des petits actionnaires.
Oui, et la bête noire des PDG du CAC 40.
Bonsoir. Bonjour, Monsieur Bulidon.
Bien.
François Ruffin.
Bonjour, Louis.
On s'était trompé de monument aux morts.
Ah, oui, il y en a deux. Bonjour, madame.
Vous allez boire un petit coup de cidre, le bon cidre, vous savez, qui sort tout frais.
Bah voilà, c'est sympathique. On arrive chez Monsieur Louis Bulidon. On va boire un petit coup de cidre. Et voilà, comme on vient de le présenter, Monsieur Bulidon est un actionnaire, français, tout ce qu'il y a d'heureux, et qui se laisse pas faire. C'est un, à la fois, actionnaire et contestataire. Ça peut paraître, mais, c'est en tout cas ce qu'il pense être, et c'est ce qu'il est, à n'en pas douter. Alors, parcours de cet actionnaire français, il est retraité, il était ingénieur, il a fait une carrière chez Mobil, dans le pétrole. Son parcours, il est issu de la petite bourgeoisie commerçante française, et il serait plutôt à gauche, monsieur Bulidon. Voilà le parcours d'un petit actionnaire français.
Quand est-ce que vous êtes devenu, puisque c'est ça qui nous amène ici, quand est-ce que vous êtes devenu petit actionnaire?
Quand j'ai pris ma retraite en 94, j'ai trouvé que le véhicule PEA était un excellent véhicule d'investissement à cause de l'avantage des fiscalisations. Donc j'ai ouvert un PEA, ouvert un pour mon épouse, et j'ai décidé d'investir en actions.
Donc, c'était quoi le premier titre que vous avez acheté alors?
Total. Premier stade de la privatisation de Total.
Oui, ce que Louis n'évoque pas, mais c'est qu'il investit dans les années 90, à un moment où les gouvernements socialistes ont favorisé l'investissement en actions, ont libéralisé les marchés des capitaux. Ensuite, les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de favoriser ce type d'investissement.
Le grand départ de l'intérêt porté aux actions, c'est malgré tout la décision dans les années 80 de privatiser, qui a incité les premiers petits actionnaires à investir.
Il y a eu un certain nombre de publicités qui incitaient...
Absolument.
Jamais il y avait eu une publicité massive d'incitation à l'actionnariat. Et là, sur les chaînes de télévision, sur les radios, on disait « devenez actionnaire ». Et vous savez un portefeuille de combien vous possédez aujourd'hui en actions à peu près?
Ah, écoutez, ça, ce sont des informations que j'ai toujours du mal à donner. Par contre, je compare la valorisation de mon portefeuille en 10 ans, puisque ce sont des PEA qui remontent à 93-94, eh bien, j'ai triplé ma mise.
En 10 ans, vous avez triplé votre mise?
Absolument, oui. J'ai triplé ma mise.
Il y a quelque chose qui me paraît intéressant. Quand on dit que la valeur de ce portefeuille a triplé en 10 ans, c'est qu'en général, les commentateurs boursiers, ils sont toujours le nez collé sur le dernier jour. Ils disent aujourd'hui, il y a une baisse de 0,39%, une augmentation de 1,5%. Et finalement, on perd un peu la vision sur le long terme. On se dit, bon, est-ce que ça baisse, est-ce que ça augmente? Et là, on voit que sur 10 ans, quand même, c'est un investissement qui rapporte plus que la pierre, qui est quand même assez considérable.
Vous savez, il y a eu de très très nombreuses études et toutes convergent vers la même conclusion. C'est l'investissement boursier qui rapporte le plus.
Le problème en France, je lis quelques lignes publiées dans le journal Les Échos du 26 avril 2005. Le problème en France, c'est des siècles de culture judéo-chrétienne et de décennies d'idéologie égalitaires qui ont fait de l'argent un tabou. Et puis, il y a aussi, poursuit les échos, la jalousie comme un sport national. Voilà notre problème en France, c'est ces siècles de culture judéo-chrétienne et ces décennies d'idéologie égalitaire. Comment en est-on arrivé là? Pour essayer de comprendre comment insensiblement on est passé de la valeur du travail à la valeur du capital, comment on est passé du salaire à l'actionnaire, pour simplifier. Voilà Jacky Fayol, qui est directeur de l'Institut de Recherche Économique et Sociale.
Donc on se trouve là à l'IRES, à Noisy-le-Grand. L'IRES, c'est l'Institut de Recherche Économique et Sociale, avec monsieur Jacky Fayol, qui est chercheur économiste et directeur de l'IRES. Quand on donnait 100 francs en 1980 à un salarié, il y avait 9 francs qui partaient en dividendes. Aujourd'hui, quand on donne 100 francs à un salarié, il y a 26 francs qui partent en dividendes. Est-ce que c'est un glissement du travail vers le capital que vous constatez également dans vos études à l'IRES ?
Ce glissement de la rémunération du travail vers le capital, on peut incontestablement le constater depuis une vingtaine d'années. Il y a eu une modification profonde du partage de la valeur ajoutée au détriment des salaires en faveur des profits. C'est-à-dire qu'il y a 10 points qui ne sont plus allés au salaire, 10% qui ne sont plus allés au salaire dans cette valeur ajoutée, mais qui sont allés, pour aller très vite, au profit.
Donc en 20 ans, il y a 10% de la valeur ajoutée du pays, du produit intérieur brut, qui est passé en gros du travail, des salaires, vers les profits, vers les dividendes.
C'est ça. Pourrait-on dire même en 10 ans, parce que ça s'est joué effectivement de la fin du milieu des années 80 au milieu des années 90. Et depuis ce moment-là, on a eu une sorte de stabilisation, pourrait-on dire, de la part des salaires dans la valeur ajoutée à un bas niveau.
Mais quand on dit 10 points de la valeur ajoutée, 10 points du produit intérieur brut a glissé du travail vers le capital, ça représente combien en fait ?
Le PIB de la France, c'est à peu près 1500 milliards d'euros. Donc il y a en gros 100 à 150 milliards d'euros qui ont ripé des revenus du travail vers le revenu du capital.
100 à 150 milliards par an alors.
Pour aller très vite, c'est ça.
Donc c'est plusieurs fois le trou de la Sécu qui est passé du travail vers le capital, en tout cas largement plus que plusieurs fois le trou de la Sécu.
Oui, bien sûr, ce sont des ordres de grandeur macroéconomiques qui sont tout à fait importants, qui traduisent des déformations structurelles, pas simplement de l'économie, mais de la société.
Donc ça, cette donnée-là, ces 10 points de PIB, ces 150 milliards qui passent du travail vers le capital, c'est un hold-up géant dont on ne parle pas, ça.
Oui, sauf que le mot hold-up est, je dirais, trop brutal pour parler d'un changement qui cumule tout un ensemble de facteurs, le poids du chômage, les politiques économiques, le changement de la gouvernance des entreprises depuis une vingtaine d'années.
Vous dites, il y a eu un glissement de 10% de la valeur ajoutée du travail vers le capital. Ça s'est fait dans ces 10 ou ces 20 dernières années, mais notamment dans ces 10 dernières années. Et c'est également dans ces 10 ou ces 20 dernières années qu'il y a eu une explosion des salaires des PDG. Est-ce qu'il y a eu une accélération de l'histoire ?
Je dirais qu'il y a trois facteurs essentiels qui ont joué sur ce partage modifié entre salaire et profit, dont les hautes rémunérations des PDG, plutôt que de parler de salaire, sont, je dirais, seulement un signe, même si c'est le plus spectaculaire. D'une part, il y a eu des politiques économiques mises en œuvre depuis 20 ans qui ont poussé à cette modification du partage entre profit et salaire. On a mis en place dans les années 1980 des politiques dites de désinflation qui s'est faite essentiellement sur le dos des salariés.
C'est-à-dire que la désinflation consistait essentiellement à éviter que les salaires ne s'élèvent.
Plus exactement, à éviter que les salaires ne s'élèvent aussi vite que l'inflation anticipée. C'est ce qu'on a appelé la désindexation des salaires.
C'est-à-dire, dans les années 80, on élevait les salaires quasiment par avance en imaginant qu'il y aurait une inflation qui serait assez élevée, c'est ça ?
C'est ça. Et puis, il y a eu ce mouvement de désinflation, mais où la désinflation des salaires a été en quelque sorte plus rapide que celle des prix. Et puis, à travers ces politiques économiques de désinflation, elles ont quand même beaucoup misé sur le chômage, pour faire ralentir les salaires. Et on s'est aperçu qu'au bout d'un certain temps, le chômage devenant massif et persistant, eh bien, il induisait une perte structurelle de rapport de force sur le marché du travail au détriment des salariés.
Monsieur Lionel Jospin.
Disons qu'effectivement, je n'ai pas l'intention de poursuivre le programme de privatisation conduit par Monsieur Balladur et Monsieur Chirac.
Décidément, les événements se bousculent. Ce soir, on a appris il y a moins d'une heure que le gouvernement avait choisi Alcatel pour la privatisation du groupe électronique de défense Thomson CSF.
Même si ce sera difficile, j'ai dit ce que je ferai. Je ferai ce que j'ai dit.
Le gouvernement a choisi Groupama pour reprendre la plus grande partie du capital du GAN.
Je suis pour arrêter le programme de privatisation.
Le gouvernement entrouvre la porte de France Télécom aux capitaux privés.
Même si ce sera difficile, j'ai dit ce que je ferai. Je ferai ce que j'ai dit.
C'était Monsieur Lionel Jospin.
L'actionnaire s'engraisse au détriment des salaires. C'est un petit peu ce que qui ressort de cet entretien qu'on vient d'entendre, cette séquence qu'on vient d'entendre. Mais c'est pas le cas, bien sûr. C'est parce que croient certains actionnaires, dont par exemple Monsieur Bulidon, qui est un brave homme, actionnaire et contestataire à la fois. Il se présente comme un actionnaire citoyen, il dénonce les revenus excessifs lors des assemblées générales d'actionnaires, il ne manque pas de s'insurger contre les revenus excessifs des grands patrons, par exemple de monsieur Jean-René Fourtout, de Vivendi, mais il reconnaît que sa voix n'est pas très entendue. Une voix qu'on va entendre, puisqu'on a parlé quand même des salaires et des salariés, une rencontre comme ça à la Poix du Nord. La Poix du Nord, c'est une petite ville dans le Nord où on rencontre, on trouve des ouvriers, des ouvrières dans une petite entreprise de confection qui s'appelle ECCE. Et cette entreprise travaille pour LVMH. LVMH.
Alors attendez, j'ai sorti des petits documents. Ça, c'est sur... vous connaissez le groupe LVMH ?
Oui, bien sûr. Parce qu'on travaille pour eux, on travaille pour Kenzo.
Vous connaissez le patron de LVMH ?
Oui, Bernard Arnault.
Bernard Arnault ? Vous savez quelle est sa fortune à Bernard Arnault ?
Oh, pas du tout.
3 non. millions d'euros ?
Vous allez nous écœurer.
3 millions d'euros et c'est la deuxième grande fortune de France.
3 millions d'euros de salaire, c'est exact. Mais alors, il y a 15 millions d'euros de stock options en plus.
Ah, j'ai oublié les stock options. C'est vrai que nous, on n'en a pas, hein. À côté de 1000 euros par mois à peine pour une fille en production.
Ça, c'était son salaire. Maintenant, votre patrimoine, vous possédez votre maison ?
Non. Justement, j'étais séparée, j'étais obligée de revendre ma maison. Et j'ai eu des difficultés parce que ma maison n'était pas encore fine payée, donc j'étais obligée de payer deux loyers. Ça a été très, très, très dur. Et ici, en plus, quand on m'a retiré 100 euros de prime par mois parce que je n'arrivais pas, on m'a mis à un autre poste et que je n'y arrivais pas, alors que j'étais dans la difficulté.
Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ?
Depuis 75, c'est-à-dire 30 ans. J'ai 30 ans d'ancienneté et je gagne toujours 980 euros sans prime d'ancienneté, sans rien du tout. Je trouve que c'est une misère par rapport à un costume qu'on vend dans les magasins de vente, quoi. Un costume, il est vendu entre 4500 francs et 6000 francs. C'est presque mon salaire.
Et pourtant, votre salaire, c'est encore trop.
Mon salaire, c'est encore trop par rapport à ce qui est fabriqué à l'étranger. À l'étranger, on nous dit toujours qu'un costume, il vaut 300 francs et ici, il vaut, à Poix du Nord, il vaut 1000 francs.
Donc vous, vous ne possédez pas votre maison, vous avez quoi comme patrimoine alors ? Une voiture ?
Rien, je suis sur le coup d'acheter une autre voiture parce que la mienne, elle a quand même 16 ans. Donc pour venir travailler, je suis obligée d'avoir un moyen de locomotion parce que le bus, il passe pas.
Et c'est quoi votre voiture, alors ?
Ici, c'est une Renault 21 ancienne.
Donc comme patrimoine, vous avez une Renault 21 qui n'est plus cotée à l'Argus, c'est ça ?
Non, pas du tout.
Vous avez quoi comme patrimoine ?
Moi, j'ai ma maison, mais bon, enfin, c'est une petite maison que j'ai achetée pas très cher, qu'on a refait les travaux nous-mêmes, donc il y a plus de 16 ans. On a fait du système des merdes, quoi.
Donc c'est-à-dire c'était payé au noir ?
Bah, payer au noir, ça va être payé du tout. C'était on se rendait service en famille, quoi.
Donc vous avez votre petite maison. Et vous avez quoi comme patrimoine ?
Une belle voiture qui a 14 ans et 237 000 km.
Et donc, la fortune de Bernard Arnault, combien vous pensez-vous l'évaluer ?
La fortune ? On pourrait même pas l'évaluer parce que... Est-ce que tout est bien déclaré, d'abord ?
Essayez. C'est un premier chiffre. Lancez-vous, n'ayez pas peur.
Plusieurs appartements, à bas tout.
Allez, lancez un chiffre.
100 millions d'euros.
100 millions d'euros pour Madame Bourlard. Vous vous dites combien, Madame Smaga ?
Oh non, moi je dirais ça, j'irais plutôt par milliard, pas par million.
On est en euros. Donc c'est des millions d'euros, des milliards d'euros. Bah,
des milliards d'euros.
C'est 15 milliards d'euros. Ah, vous allez dire combien?
Un milliard, on était encore loin du compte.
On en ferait des choses. Hein.
On va pouvoir en faire des années.
On pourrait profiter de notre retraite, peut-être.
Peut-être donner une journée de la vie Pentecôte pour nos aînés, tiens.
On peut travailler pendant cette vie, on n'aura jamais ce qu'il y a là. Hein.
Ah, c'est plus que cette vie, on a calculé hier, hein. C'est bien plus que cette vie. Voilà, ben, la France est une terre de contraste, disons. Alors, retour chez Monsieur Bulidon, l'actionnaire, et une conversation assez antagonique, on va dire, assez polémique entre François Ruffin et Monsieur Bulidon, l'actionnaire, on va dire l'actionnaire contestataire.
Oh, pardon. Attendez, j'ai le dernier classement, il est là. J'ai le dernier classement des PDG de CAC 40. Le numéro 1, c'est Bernard Charles de Dassault Systèmes, 21 millions d'euros. Numéro 2, Lindsay Owen Jones pour L'Oréal, 20 millions d'euros. Bernard Arnault, numéro 3, 18 millions d'euros. Jean-René Fourtou, numéro 4, 16 millions d'euros.
Moi, je suis pour les patrons quand ils sont performants et quand le résultat de leur stratégie se lie dans la croissance du titre et dans le montant du dividende payé. Bon, je suis pour les patrons et pour de bons patrons.
Ce que vous dites, c'est que vous, finalement, ces rémunérations qui représentent des milliers d'années de salaire minimum, vous, en soi, ça vous choque pas.
Lorsque j'ai acheté mes actions de L'Oréal il y a 10-11 ans, et que je regarde le prix d'aujourd'hui, j'ai réalisé une plus-value considérable. Donc, moi, petit actionnaire, je dis que la performance de M. Lindsay Owen-Jones sur ces 11 dernières années, elle a été très payante.
Hein, c'est pour ça que de la même manière, ce qui a été versé à M. Daniel Bernard, c'est quelque chose qui vous choque pas en tant que tel. Ce qui vous choque, c'est quand la performance n'est pas au rendez-vous.
Voilà. Par exemple, quelque chose qui m'a
choqué. La performance, quand vous parlez performance, c'est croissance du titre, c'est dividende.
Croissance du titre, dividende et solidité de la performance, c'est-à-dire une performance récurrente.
Moi, ce qui me surprend quand même dans le discours qu'on a là, c'est l'absence de ce qui est quand même pour moi le cœur de l'entreprise. C'est-à-dire là, on a un dialogue entre le PDG et vous, à petit actionnaire, ou les gros actionnaires institutionnels. Mais là, il y a quand même l'absence des salariés. Dans la Somme, par exemple, il y a un sous-traitant de L'Oréal. Il y a un sous-traitant de L'Oréal qui fonctionne avec 88% d'intérim et des gens qui sont payés pour faire des flacons de parfum, qui sont payés aux alentours de 1000 euros. Mais eux, la croissance du titre depuis 11 ans, je ne sais pas de combien elle a augmenté, mais ils n'en ont rien perçu de tout ça.
Là, écoutez, vous avez raison, il faut distinguer le personnel de la société de la sous-traitance. Le personnel de la société, vous savez qu'il y a de plus en plus d'incitations pour que les salariés d'une société soient actionnaires. Bon, je pense que on ne peut pas plaindre les salariés d'une société. Ils ont de multiples moyens d'accéder au capital, en particulier pour certaines sociétés, avec des cotes.
Vous dites, les salariés des groupes, non plus les sous-traitants, mais les salariés du groupe, ils ont une chance énorme, parce qu'ils peuvent bénéficier des actions, avec une décote. Bon.
Pas toujours, mais parfois avec une décote.
Bon. Hein? Donc, ils ont la chance. Dimanche, j'ai été faire un entretien avec une caissière de chez Carrefour. Elle a 9 ans, ça fait 9 ans qu'elle travaille chez Carrefour. Depuis 9 ans, elle a un temps partiel contraint, c'est-à-dire qu'elle travaille 30 heures à la place de 35, et sans avoir le choix. Et elle touche 839 euros, c'est-à-dire moins que le SMIC. Je ne sais pas comment elle va faire avec 389 euros de loyer à peu près à payer, avec un fils à élever pour acheter des actions et pouvoir en bénéficier, quoi.
Écoutez, moi je pense que vous soulevez un réel problème, et c'est un problème qui doit être débattu par l'ensemble des responsables de la distribution. Il faut l'attaquer sous l'angle du développement durable. C'est-à-dire qu'une société qui prétend faire du développement durable, et toutes le prétendent, hein, elles doivent avoir un problème d'éthique. Vous devez vous assurer qu'il y a une juste rémunération du travail.
Et si c'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas. J'ai eu par ailleurs à me déplacer chez un sous-traitant de LVMH dans le nord de la France. Maintenant, c'est déplacé en Pologne. Et pourtant, bon, bah, Bernard Arnault est bien payé, et je sais pas si comment se porte l'action LVMH, quoi.
Bon, ça, c'est le problème de la mondialisation. C'est un autre problème, hein. C'est un autre problème.
Toujours est-il que les salariés, alors que l'actionnaire est satisfait,
Mais l'actionnaire qui a une démarche citoyenne, et je revendique cette démarche citoyenne, mais effectivement, c'est une question que j'ai jamais étudiée en particulier, mais je regarderai quelles sont les règles de traitement, les règles d'équité et d'éthique face à l'utilisation de la sous-traitance.
Vous dites la mondialisation, évidemment on ne va pas le résoudre, mais la mondialisation, elle contribue peut-être à ce qu'un certain nombre de sociétés se portent bien au détriment des salariés. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une lutte quand même entre l'actionnaire qui peut toucher des dividendes et...
Écoutez, moi je suis entièrement d'accord qu'il faut tenir compte de toutes les situations, mais il ne faut pas oublier de tenir compte de tous les paramètres de l'équation de toutes les variables de l'équation que vous posez. Je suis actionnaire d'Air Liquide, je suis actionnaire d'AXA, malheureusement d'Alstom, de BNP Paribas, je suis actionnaire de Danone, je suis actionnaire d'Essilor, Lafarge, une très belle valeur qui n'est pas du CAC 40, très très belle valeur, Imerys, l'ancien Imetal, bon, Lafarge, Pernod Ricard, L'Oréal, Société Générale, Total, Vivendi, mais Vivendi parce que je vais de Général des Eaux, Suez, Dexia, et Essilor, très très belle valeur, très très belle valeur.
Alors on va quitter Monsieur Bulidon, évidemment, capitalisme et éthique, pour un certain nombre d'entre vous, je suis sûr que c'est un petit peu comme nazisme et dialogue, c'est ces deux mots qui ont quand même pas mal de difficultés à s'accorder, mais beaucoup croient encore que c'est possible, ou croient que ce sera possible un beau jour. Retour donc de cette rencontre, de cette visite avec cet actionnaire, et retour avec notre journaliste dissident, on va dire.
Alors là, on cherche Poitiers, c'est à gauche, ouais. Là, Olivier, on sort de chez Louis Bulidon, tu me ramènes à la gare de Poitiers. Pendant, on est resté une demi-journée, quoi. Et pendant 4-5 heures, on est dans un monde de chiffres, on est dans un monde où on parle d'actions, de dividendes, de performances, mais les salariés, on les aperçoit plus. Est-ce que c'était pareil quand tu étais rédacteur de La Voix de la Bourse? Est-ce que tu avais le sentiment de cette déréalisation ou que les entreprises sont réduites à quelques chiffres, à quelques performances?
Ben oui, l'univers du journaliste dans ce cadre-là, c'est son ordinateur, le communiqué de presse, éventuellement la conférence de presse où il aura en face de lui les dirigeants de la boîte, des analystes financiers qui conseillent d'acheter ou de vendre des actions à leurs clients. Au mieux, on part en voyage de presse. Il n'est pas prévu dans ce genre de voyage de rencontrer les délégués syndicaux, de rencontrer les clients, les fournisseurs, de rencontrer les sous-traitants.
Il y a eu beaucoup de plans sociaux pendant que tu étais à l'intérieur de ta boîte. Enfin, je sais pas, il y a eu Danone, il y a eu Michelin.
Vivendi, Alcatel, France Télécom, j'en passe, je pense, Rodia, Péchiné-Alcan, Suez, je pense, Veolia.
Et donc ça représente des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois.
Oui, mais qui ne se traduisent que sous une formule, ça va faire augmenter les bénéfices. C'est tout ce qui intéresse la direction de l'époque. Et bon, ça ne chagrinait aucun journaliste, visiblement. Et même moi, j'avais du mal. Il fallait.
C'est-à-dire, il y avait une très grande distance. Finalement, il y avait une distance telle entre les gens qui étaient licenciés et toi, qui étais dans ton bureau, qui étais au contact finalement du staff de direction. Il y avait une distance telle que pour toi, les licenciements, perdaient leur réalité.
Tout à fait, une distance, et une distance sociale surtout.
Et donc comment c'était traité quand ça se passait dans des entreprises que tu suivais?
Ça n'existait pas, la réalité sociale de l'entreprise n'existait pas. Ce qui existait, c'était ils sont licenciés pour que les profits remontent. Ou que les profits augmentent, point. Bon, moi, il y a eu un révélateur aussi, c'est que au lendemain du 1er mai 2002... j'ai été manifesté contre Le Pen. Eh bien, ça a provoqué des discussions parce que la plupart de la rédaction a été manifestée également. Et au cours de ces discussions, alors qu'on n'avait jamais de discussion directement politique, et je me rends compte à ma stupéfaction qu'ils votent quasiment tous PS avec bonne conscience. Et ces gens qui votent quasiment tous PS dans la rédaction écrivent à longueur de journée, à longueur d'articles, et c'est normal quand on en discute ensuite ensemble, telle boîte licencie pour augmenter les profits ou pour parce qu'elle fait des pertes. Et c'est normal. Et quand on en discute, c'est normal. C'est une loi naturelle de l'économie.
Et il n'y a pas de contradiction pour eux entre voter socialiste et accepter qu'une boîte licencie pour faire plus de profits.
Ben non, parce que pour eux, le socialisme, c'est Delors, Strauss-Kahn, Fabius, j'en oublie un, Rocard, Hollande, et ainsi de suite.
T'en oublissant.
En
connaissant le marché du travail journalistique, un marché du travail où il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus, qu'est-ce que c'est l'avenir après, une fois qu'on a démissionné de la voie de la bourse?
Le chômage. Donc l'avenir est un peu sombre. Bon, là, c'est un petit peu le problème. Bon, j'espère quand même...
C'est-à-dire qu'il y a plus de facilité à faire son métier malhonnêtement. On est plus récompensé quand on fait son métier malhonnêtement que quand on essaie de le faire en conscience.
Oui, c'est ça. Bon, donc malhonnêtement ou qui va d'une manière qui va contre ma morale.
Merci à Olivier, le journaliste que vous venez d'entendre. Merci à Jackie Fayol, à Monsieur Louis Bulidon et à son épouse. Merci aux dames salariées de ECCE. C'était un reportage de François Ruffin. À lire le livre de Jean-Pierre Levaret, Putain d'usine, aux éditions Agone, et toujours le bouquin de Jean-Luc Porquet, Que les gros salaires baissent la tête, c'est aux éditions Michalon. Les nouvelles des repères, des amis de la basse J'y suis. Mercredi à 20h, les amis de la basse J'y suis se réunissent à Brest, au café de la plage, 32 rue Massillon, à Brest. Et puis, par exemple, à Lyon, jeudi à 20h, ce sera à l'arrêt public des Platanes. Voilà que les amis de là-bas, chez J'y suis, se retrouveront dans ce repère. Technique aujourd'hui, Olivier Leroux et Olivier Riotor. Réalisation Antoine Chao et Yann Chouquet. Assistante Pascal Pascariello. Le répondeur, c'est Christophe Imbert qui vous écoute. Et le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Pub.